14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
Cette nuit, la princesse de Galles a été victime à Paris d'un accident de la circulation à grande vitesse. Elle a été immédiatement prise en charge par le SAMU de Paris qui a effectué la réanimation initiale. À son arrivée à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, elle présentait un choc hémorragique gravissime d'origine thoracique, puis rapidement un arrêt cardiaque. Et le décès a été constaté à 4h du matin.
Bonjour, c'est l'une des plus longues, des plus spectaculaires, des plus coûteuses aussi, enquêtes criminelles jamais menées en France et au Royaume-Uni. Même si 25 ans après l'accident de Lady Diana à Paris le 31 août 97, continue toujours d'alimenter interprétations, versions plus ou moins fantaisistes, curiosité affectée de voyeurisme morbide. Derrière cette mort spectaculaire, lors d'une course à 150 km/h, des dizaines de policiers se sont relayés à Paris et à Londres pour faire jaillir la vérité. Sans compter les enquêtes privées qui vont prospérer, notamment celles diligentées par le milliardaire égyptien Mohamed Al-Fayed, pour qui la mort de son fils et de Diana était un règlement de compte, une affaire d'État. C'est cet envers du décor, celui de cette extraordinaire enquête que je vous propose de visiter aujourd'hui. Une traque qui n'a jamais eu qu'un seul but, résoudre l'énigme de la mort de la princesse de Galles. Ce but a-t-il été atteint ? Ou bien demeure-t-il des zones grises, des zones d'ombre, des révélations inavouables ? Question posée aujourd'hui à nos invités.
14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL.
Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'enquête tentaculaire et monumentale sur la mort de la princesse Diana. Investigations ultra sensibles qui vont commencer dans les minutes suivant un accident sous un tunnel parisien à la toute première heure d'une journée d'été de 1997. Il est minuit 26, ce 31 août 97, quand une femme appelle les pompiers sur son portable. Un accident violent vient de se produire sous le tunnel de l'Alma, à Paris. Il y a sûrement des blessés. 4 minutes plus tard, minuit 30, 2 policiers de la sécurité publique, alertés par des témoins, stoppent leur voiture dans le tunnel. C'est le chaos. Sous la lumière jaune des néons, une Mercedes noire est encastrée dans le 13e pilier. Des photographes sont autour de la voiture. Les policiers tentent sans beaucoup de succès de les écarter. Une équipe de la brigade anticriminalité, 4 hommes, les aide à écarter le groupe de paparazzi et les premiers curieux. Mon collègue maintient éveillé tant que possible la passagère arrière droite en lui parlant et en lui tapotant la joue, note dans son rapport un gardien de la paix, qui n'a pas tout de suite reconnu Lady Diana, princesse de Galles. Un médecin du SAMU, le docteur Frédéric Maillet, qui passait par là, place sur le visage de la victime un masque à oxygène. Un massage cardiaque est pratiqué sur un homme au sol, Dodi Al-Fayed, en vain. Le chauffeur Henri Paul, effondré sous le volant, est déjà mort. Le garde du corps Trevor Rhys Jones, le visage en partie arraché, est difficilement extrait du véhicule. Diana, en pantalon blanc et bottes de daim, intacte, hormis une légère griffure sur le visage, a répété « Mon Dieu, mon Dieu » avant d'être placé sur une civière. Le décès de la princesse à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière est annoncé à 4h45. C'est une hémorragie interne. Débarqué aussitôt sur les lieux, le préfet de police de Paris, Philippe Massoni, et le patron de la PJ parisienne, Patrick Rioux, ont conscience qu'il ne s'agit pas d'une banale enquête sur un accident de la circulation. Le seul survivant du crash, l'officier de sécurité Trevor Rhys Jones, ne pourra être entendu que dans plusieurs semaines. Il faut au plus vite éclaircir les circonstances du drame et chasser les interrogations. À situation exceptionnelle, il fallait réagir de façon exceptionnelle, confie le préfet Massoni au Figaro. C'est donc la prestigieuse brigade criminelle dirigée par la commissaire Martine Monteil qui hérite du dossier. 24 policiers, soit un quart des effectifs de la crime, vont travailler par groupe. Le premier concerne les paparazzi, 9 photographes et un motard de presse interrogés. Ils auraient gêné la conduite du chauffeur. Mohamed Al-Fayed, le père de Dodi, les désigne comme des assassins. Ils sont mis en examen pour homicide involontaire par le juge Hervé Stéphane. Ils obtiendront un non-lieu 2 ans plus tard. Un deuxième groupe de la crime travaille lui sur le chauffeur, Henri Paul, patron de la sécurité à l'hôtel Ritz. La seule des 3 victimes décédées à faire l'objet d'une autopsie à l'Institut médico-légal de Paris. 3 expertises sont effectuées pour connaître son taux d'alcoolémie. Celui-ci oscille entre 1,75 g et 1,85 g par litre de sang. Quand il témoignera devant le juge Stéphan, Trevor Rhys-Jones, sans se souvenir du crash lui-même, se rappellera avoir vu Henry Paul boire un verre de liquide jaune avant de prendre le volant. Les analyses font également état de traces de médicaments dans l'organisme du chauffeur, Prozac et Thiapridal. Les experts estiment que l'alcoolémie n'a pas entraîné une subite perte de contrôle de la Mercedes. La fiabilité de ces tests, confiés en partie à un labo indépendant, est contestée par la famille Al-Fayed. Celle-ci a mandaté à Paris le professeur de médecine légale Peter Vanezis, qui souligne le manque de sérieux de ce travail. Première pierre jetée dans le jardin des enquêteurs français. Et on va voir que la CRIM, la PJ parisienne, ces policiers vont se heurter à des enquêteurs privés de tout poil au sujet de la Mercedes, mais aussi au sujet d'une fameuse Fiat Uno. On va en parler de cette fameuse Fiat Uno et puis de cette Mercedes également dans les chapitres suivants. On revient pour l'instant, si vous voulez bien, à cette scène d'accident. Et j'allais dire scène de crime, puisque c'est bel et bien la brigade criminelle qui est saisie. Pourquoi cette brigade criminelle, Xavier Benerozzo, est-elle saisie? Vous êtes ancien journaliste à RTL, et vous êtes aujourd'hui rédacteur en chef à Studio Fact. Vous avez suivi cette affaire, vous l'avez couverte. Pourquoi c'est la CRIM ?
Eh ben, c'est la CRIM, Jean-Alphonse, parce que vous le savez parfaitement bien, c'est le domaine de ce qu'on appelle les enquêtes réservées, quand il y a des personnalités qui sont mises en cause dans un dossier où il y a par exemple un assassinat. On songe par exemple à l'affaire d'Harry Boutboul, par exemple, dont la CRIM a été saisie, mais parce que la victime, Jacques Perrault, était un proche aussi de Laurent Fabius. Il y a une agression de Madame Bouvard, par exemple, qui n'a pas fait grand bruit, c'est la CRIM aussi qui a été saisie. C'est ce qu'on appelle le domaine des enquêtes réservées. Alors pourquoi effectivement Patrick Rioux, le patron de la PJ à l'époque, demande à ce que ça soit Martine Monteil? Eh ben, elle veut aucun couac. Elle veut que tout soit fait comme vous venez de le rappeler, c'est-à-dire qu'il y aura 24 policiers. C'est énorme.
C'est énorme.
C'est énorme.
Il y aura, c'est quasiment du jamais vu, je crois, dans l'histoire.
Il y aura des groupes et des groupes, alors que parallèlement, il importe de le rappeler, la criminelle est en train de courir dans le même temps sur les traces d'un tueur en série qui s'appelle Guy Georges.
Ils ont un peu de travail.
Voilà. Donc, comme c'est l'usage, il faut aucune bavure, il faut que le travail soit fait de manière minutieuse, que toutes les portes, comme on dit dans le langage policier, soient ouvertes et refermées, que toutes les hypothèses soient expurgées à fond. On va demander à la brigade criminelle de se saisir de ce dossier qui est un dossier
sensible.
Extrêmement sensible, évidemment.
Et extrêmement chaud. Daniel Bourdon, bonjour.
Bonjour.
Merci, vous aussi, d'être aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime. Vous êtes un ancien policier. Vous connaissez parfaitement cette affaire. Vous l'avez bien suivi à l'époque. Et puis, vous avez même écrit un livre, Diana, cette nuit-là, aux éditions Michel Lafon. Daniel Bourdon, question très simple. Ce n'est pas une scène de crime, c'est une scène d'accident. Qu'est-ce qu'il y a d'important à regarder tout de suite pour les policiers? Qu'est-ce qu'ils font? Quelles sont les premières mesures qu'ils prennent?
Ce qu'ils veulent savoir, c'est s'il y a eu un attentat ou pas contre
tout de suite,
contre la princesse. Vous savez, c'est la princesse, c'est l'icône.
D'accord.
Donc tout de suite, je pense aussi même que chacun pense des précautions parce qu'ils savent très bien qu'il va avoir des retombées par l'Angleterre, etc. Exactement. Tout de suite, ils vont mettre une pléiade de policiers pour vérifier depuis le départ de l'accident et jusqu'à la fin des constatations.
Alors je l'ai dit, il y a une seule autopsie dans ce dossier, c'est celle d'Henri Paul, le chauffeur. C'est normal, c'est lui qui conduit, on veut savoir ce qui s'est passé. Pourquoi il n'y a pas d'autopsie de d'Audi Al-Fayed et de la princesse Diana?
Diana, c'est Diana, donc il n'y a pas d'autopsie. Al-Fayed, pareil, c'est la même chose. En plus, je pense que il est musulman. Sans vouloir, évidemment, ça n'a rien à voir avec ça, mais il est musulman. Je pense
qu'il
y a une attente avant de voir. Son père va venir le voir le lendemain matin. Ça, je vous en parlerai tout à l'heure parce que j'ai assisté à ça.
Oui.
Donc je pense que les décisions sont prises ultérieurement. De toute façon, une autopsie peut avoir lieu après.
D'accord. Non, si je vous posais la question, c'est que cette affaire d'absence d'autopsie, évidemment, elle va faire jaser puisque cette histoire, c'est une source de rumeurs infinies. C'est une cascade de supputations, donc ça va faire partie aussi des interrogations qui vont se poser. On a en ligne le général Jacques Hébrard. Bonjour général.
Oui, bonjour Jean-Alphonse.
Merci beaucoup d'être aujourd'hui en ligne dans l'heure du crime. Vous étiez à l'époque chargé de l'enquête technique pour expertiser cette fameuse Mercedes. On va en parler de cette fameuse Mercedes dans le chapitre suivant. Vous avez, général, participé à la création en 90 de l'IRCGN, c'est l'Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie Nationale. C'est un bureau extrêmement pointu et chargé des expertises techniques d'accidents et évidemment de crimes. Qu'est-ce qu'il y a d'important, général Hébrard, sur cette scène? Le moindre détail compte, il faut tout ramasser, il faut tout regarder?
Oui, alors tout à fait. Alors, c'est nos collègues policiers, en particulier la brigade chargée des accidents de la préfecture de police qui s'est occupée de cet aspect-là, mais il faut forcer de constater qu'ils ont bien fait le travail, puisqu'on trouvera des débris d'optique à disposition, et ensuite, quand on analysera la fameuse trace blanche présente sur la Mercedes, on pourra faire des comparaisons. On aura même des éléments, on travaillera sur la jante du véhicule pour savoir à partir de quel moment il a chevauché le terre-plein central de du tunnel. Donc voilà, tous ces éléments ont été collationnés avec attention. Et donc ensuite, le 30 septembre, la voiture sera remise en place dans le tunnel. Une reconstitution avant que le véhicule soit transporté dans les locaux de l'Institut de recherche criminelle qui se situe à l'époque à Rosny-sous-Bois et pour un examen par un collège d'experts dont je reparlerai tout à l'heure.
Oui,
va durer pratiquement 13 mois.
Voilà, on va en parler dans le détail de cette histoire de Mercedes parce que c'est important, il faut tordre le cou à toutes les rumeurs. Xavier Benerozzo, vous êtes d'accord avec
détail? Oui, je suis absolument d'accord, mais surtout ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'il y a un décalage entre le traitement médiatique, on va le voir dans le détail, c'est-à-dire dans un premier temps, il va y avoir les paparazzi, les photographes qui vont être accusés, alors que, comme vous le faisiez remarquer, deux de nos intervenants, déjà, tout de suite, immédiatement. La brigade criminelle, ils ont des petits bouts de verre, des petits bouts d'optique, donc ils savent. Et en plus, on le verra avec le rapport qui a été révélé sur RTL, ils savent que y a des témoins qui ont vu une voiture qui aurait été susceptible de taper la Mercedes et que tout de suite se dessine la possibilité d'une collision, mais immédiatement, alors que le grand public va mettre en avant, je veux dire, l'accusation contre les paparazzi dans un premier temps.
Enquête donc bien loin d'être terminée, placée sous les feux des autorités britanniques, de la presse et de la famille Al-Fayed. Les explications sur l'accident divergent et tardent à se dessiner. Les policiers de la crime travaillent sous pression, celle des autorités françaises et britanniques qui attendent des résultats, celle aussi de la famille Al-Fayed qui dénonce depuis le début une vérité cachée. Au bout de quelques semaines, l'apparition dans le décor d'une voiture blanche inconnue enflamme les imaginations. Les vérifications sont confiées à l'Institut de recherche de la Gendarmerie nationale, l'IRCGN. La voiture est une Fiat Uno blanche. Des débris d'optique de clignotants ont été retrouvés sur les lieux de l'accident. De toute évidence, la Mercedes a heurté la Fiat en la dépassant, à moins que celle-ci ait essayé de bloquer le véhicule princier. Dans tous les cas de figure, la Fiat Uno, dont le conducteur était aux premières loges, a pris la fuite. Les hommes de la crime sont chargés de retrouver la voiture fantôme au sein d'une liste de 112 000 exemplaires immatriculés en Île-de-France. Les propriétaires de l'Ouest parisien, le sens dans lequel roulait la Fiat, plus de 3 000 personnes sont rapidement entendues, mises hors de cause. La police va s'intéresser à la Uno d'un célèbre paparazzo, James Andanson, absent de Paris le soir de l'accident, mais la voiture en question est depuis longtemps une épave. Ils interrogent aussi un maître chien qui a repeint son véhicule après l'accident, mais celle-ci n'a jamais été percutée par la Mercedes. Les experts de l'IRCGN se penchent, eux, sur la Mercedes 280S pour savoir si un incident mécanique, la rupture d'un organe ou même un sabotage aurait pu causer le dérapage mortel. La voiture, dite de grande remise, appartenant à la société Étoile Limousine et mise à la disposition du Ritz, a eu une vie agitée. 4 mois avant l'accident, elle a été volée sur les Champs-Élysées, dépouillée de son système électronique, retrouvée et réparée. Elle est passée ensuite au contrôle spécial de la préfecture de police de Paris. La Mercedes est entièrement démontée par 5 experts. Elle va rester entre 12 à 15 mois derrière les murs du fort de Rosny pour se retrouver en pièces détachées, toutes analysées. Les composants électroniques sont passés au crible, la boîte de vitesse et le système de déclenchement des airbags sont sondés. Le rapport de l'IRCGN indique n'avoir décelé aucun problème technique, ni trace de malveillance ou de bricolage qui pourrait ressembler à un geste criminel. Les enquêteurs privés d'Al-Fayed, l'ex-policier John McNamara, Puis à partir du mois d'octobre, l'ancienne figure du 36 quai des Orfèvres, Pierre Ottavioli, sont missionnés pour conduire de contre-investigation. Mohamed Al-Fayed, brisé par la mort de son fils, estime qu'on lui cache la vérité. Il ne croit pas à la thèse de l'accident, avance la théorie d'un attentat fomenté par la couronne britannique destinée à empêcher un mariage scandaleux entre la princesse et un arabe. C'est dans ce lourd climat que travaille le juge Stéphan, enfermé dans le cabinet numéro 65 du palais de justice de Paris, assisté de sa collègue Marie-Christine de Vidal. Instruction particulière, le magistrat est en contact permanent avec deux officiers de police, chargés de faire la synthèse des événements et de la transmettre à Londres. Scotland Yard a également délégué sur place le commissaire Geoffrey Rees pour suivre l'enquête et garder un œil sur le clan Al-Fayed. Daniel Bourdon, ancien policier, vous êtes cette nuit-là sur les lieux de cet accident, de ce crime, on ne sait pas encore, de ce drame dans tous les cas de figure. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez suivre toute l'opération et suivre jusqu'à, d'ailleurs, à l'hôpital où se trouve la princesse?
En fait, oui, tout démarre à l'hôpital pour moi. Je suis dans mon bureau et j'entends bien sur les ondes parisiennes qu'il y a un accident grave, mais bon, ça parle codé, et si ça parle codé, c'est parce qu'il y a des mots, des noms qu'il ne faut pas prononcer. Mais l'état-major m'appelle et me demande de me rendre à la salle Patrière pour la sécurité rapprochée d'une haute personnalité. Voilà ce qu'on me dit, rien d'autre, et je me rends sur place. Haute personnalité, tout de suite, ça nous parle, c'est quelque chose qui est plus ou moins royal, parce que c'est ça, c'est un roi, c'est une reine, c'est quelque chose comme ça. Et en arrivant sur place, j'apprends que la princesse Diana a eu un accident, qu'elle est gravement blessée, que Dodi Al-Fayed est mort désarticulé par le choc, Henri Paul mort, et que le Trevor Jones, lui, il est gravement blessé, ouais. La mâchoire déposée, comme on dit,
quasiment défiguré. Mais...
Donc voilà ce qu'on me traîne, et ma mission, c'est de prendre en charge Diana quand elle arrive à l'hôpital pour la mettre en sécurité par rapport, surtout au paparazzi, par rapport à ce genre de phénomène. Et c'est ce qui va arriver, ça va être assez particulier, c'est devra arriver le SAMU à 200 mètres de l'hôpital et qui s'arrête tous les 10 secondes parce que Diana est tout simplement en train de mourir.
Elle est à l'arrêt cardiaque.
Et ils sont en train à chaque fois de lui remettre un peu de produit, cette fameuse adrénaline qui refait démarrer le cœur. Et voilà dans quel état où vers 1h30 du matin j'accueille la princesse en fait à la salle Pétrière.
Alors on sent bien ce climat ultra sécuritaire et le fait qu'il va falloir tout protéger, tout regarder, tout vérifier pour empêcher des débordements et puis surtout pour essayer de connaître la vérité. On retrouve au téléphone de l'heure du crime le général Jacques Hébrard. Je le disais, général, vous étiez à l'époque à l'IRCGN et c'est votre équipe qui a été chargée de l'enquête technique pour expertiser la fameuse Mercedes. Vous l'avez mise totalement en pièces, cette voiture?
Oui, tout à fait. Elle a été totalement démontée. Donc, après le repositionnement dans le tunnel, elle est transportée au Fort de Rosny. Et là, on va la démonter progressivement pour analyser toutes les pièces et tous les éléments clés. Et ce qui va avoir son importance, c'est dans un premier temps les observations, donc en particulier les fameuses traces blanches
bien
de peinture qui sont trouvées sur le côté de la Mercedes. À l'époque, Martine Monteil avait sollicité l'IRCG parce que nous avions une banque de données des peintures de véhicules susceptibles de circuler en Europe. Et donc la confrontation entre les éléments optiques qui avaient été ramassés par nos collègues policiers plus la peinture blanche nous a permis effectivement de définir qu'il y avait une Fiat Uno qui avait forcément rencontré un moment ou un autre la Mercedes. Et donc on a même pu faire les positionnements sur une Fiat Uno pour donner à la brigade criminelle un dossier dans lequel ils pouvaient chercher des Fiat Uno et comment les regarder vu le nombre que vous avez évoqué tout à l'heure.
Bien sûr.
C'est un travail tentaculaire, on avait essayé d'en réduire la difficulté.
Donner à la CRIM un dossier complet, c'est évidemment ce que vous faites. Cette Fiat Uno, il fallait absolument savoir où était ce véhicule parce que il faut faire la vérité sur cette affaire. Et le temps, ça va vite. Et vos expertises, elles sont plutôt délicates à mener.
Oui, alors la Fiat Uno, si vous voulez, donc on a pu déterminer sa présence. Après, c'est quand on va travailler au fur et à mesure qu'on va avancer sur la Mercedes proprement dit, qu'on va pouvoir reconstituer un scénario possible.
Alors, quel est-il en quelques mots, général Hébrard? Juste, qu'est-ce qui s'est passé?
Pour nous, en fait, le véhicule, le Mercedes, est poursuivi par les paparazzi en moto. Le véhicule Fiat Uno rentre côté gauche dans l'entrée du tunnel sous le pont de l'Alma. Pour ceux qui ont déjà utilisé ce tunnel, à l'époque, il y avait une espèce de petit creux. On avait l'impression de s'enfoncer et de rebondir. Donc on a analysé le fait qu'il voit au dernier moment le conducteur de la Mercedes voit la Fiat Uno pénétrer. Il va vouloir donner un coup de volant pour l'éviter, peut-être parce qu'il est justement dans la course-poursuite avec les paparazzi. Et à ce moment-là, le coup de volant qu'il donne, il va conduire le véhicule à s'encastrer dans le 13e pilier du tunnel sous le pont de l'Alma. Le véhicule étant un véhicule de remise relativement plus lourd qu'un véhicule classique, il ne pourra pas le récupérer. Et en ce moment-là, l'accident se produit. Donc, faut imaginer que la Mercedes va percuter le pilier. Elle va en fait s'élever dans les airs. C'est comme si on l'arrêtait net, elle va carrément voler dans les airs et se retrouver en sens inverse de la circulation.
Oui, c'est tout à fait spectaculaire, c'est un véhicule qui doit peser plus de 2 tonnes. Xavier Benerozzo, cette Fiat Uno, on ne l'a jamais retrouvée.
Alors c'est un mystère et à la fois, c'est très intéressant et c'est spectaculaire le travail dont on vient de parler. Parce que,
général Ebra.
C'est incroyable ce que fait l'IRCGN, c'est-à-dire qu'en fait ils ont réussi à très au fur et à mesure, en raison de la peinture, à retrouver un créneau sur les années en question concernant la peinture. Alors, au départ, effectivement, quand les policiers de la brigade criminelle arrivent sur la scène de l'accident, ils voient ce qu'on a dit tout à l'heure, des petits débris, puisque moi, quand je travaille à RTL, j'ai quelqu'un de la 2e DPJ, 2e division de police judiciaire, qui est sur place et qui me dit d'abord, ça va barder pour vous, parce que ça va barder pour les journalistes, parce qu'il y a une histoire de paparazzi. Et puis, il me dit immédiatement qu'ils ont trouvé des petits morceaux de verre et qu'ils savent déjà, encore une fois, qu'il y a quelque chose qui s'est passé, que la Mercedes a heurté un autre véhicule et que ceci est corroboré par des tas de témoignages que des policiers ont déjà entendu le soir du crime. Le soir de l'accident.
Le soir de l'accident, comme quoi on confond crime et accident, cette histoire. La frontière est difficile à déterminer et ça va être là encore pendant tout le temps et c'est encore aujourd'hui, on l'entend bien. L'enquête française va durer au total 3 ans. Les conclusions ne vont pas mettre un terme aux spéculations en tout genre, rumeurs, interprétations, tout au contraire. Octobre 2000, le dossier d'enquête sur la mort de Diana, de son compagnon Dodi Al-Fayed et de l'homme de confiance du Ritz, Henri Paul, est officiellement refermé. La thèse de la malveillance ou celle d'un acte délibéré du chauffeur, ces pistes sont écartées, tout comme celle des 9 paparazzi et du motard de presse qui auraient pu provoquer le drame. Leur non-lieu est confirmé. Pour la justice française, il s'agit d'un accident de la circulation dû au manque d'expérience du chauffeur, son alcoolisation, le fait aussi qu'il était sous antidépresseurs et la vitesse excessive du véhicule. Les expertises techniques ont arrêté celle-ci à 150 km/h dans ce tunnel urbain. Le seul survivant du crash, l'officier de sécurité Trevor Rhys-Jones, qui a dû subir une lourde opération de reconstruction faciale, n'a pas apporté d'autres explications. Il se souvient de son arrivée à Paris avec le couple, de l'omniprésence des paparazzi, du départ du Ritz. Mais ses souvenirs s'arrêtent là. L'accident a été effacé de sa mémoire. Mohamed Al-Fayed va essayer en vain de faire juger les paparazzi. Il s'accroche toujours à la thèse du complot ourdi par la famille royale. Selon lui, la CIA américaine détient des documents qui prouvent cette action. Le milliardaire laisse également entendre que Henri Paul travaillait en sous-main pour les services secrets et aurait pu être aisément manipulé. La brigade criminelle, lassée par ses accusations permanentes, a depuis longtemps écarté la thèse de l'attentat, bien trop aléatoire au regard des simples constatations d'une ribambelle de médecins et d'experts. Il aurait suffi que Diana et Dodi portent leur ceinture de sécurité pour s'en sortir. La thèse de l'attentat est ridicule, confie alors un policier de la crime. Alors évidemment, on navigue entre thèse et antithèse dans cette histoire. Daniel Bourdon, ancien policier, puis auteur du livre, je le rappelle, Diana, cette nuit-là, aux éditions Michel Lafon, vous connaissez parfaitement cette histoire. L'attentat, c'est la thèse rabâchée par Al-Fayed. Est-ce que cette hypothèse peut être sérieusement étayée ?
Non, au regard de l'accident, des investigations, du déroulement de l'accident, il était impossible de minuter un attentat pour tuer qui que ce soit dans cette voiture. Avec un tel accident, c'est impossible. Diana était en Sardaigne quelques jours avant, il aurait été très facile de faire un attentat avec elle quand elle était dans l'eau en pleine mer, avec, je sais pas, des plongeurs, enfin on peut imaginer beaucoup de choses, mais un accident millimétré à ce point et être sûr que quelqu'un ciblé dans, à l'arrière du véhicule décède, non, certainement pas, c'est impossible.
Xavier Benerozo.
Oui, alors moi, c'est vrai que la thèse de l'attentat tient pas, mais Daniel le sait aussi, c'est que souvent, vous savez, les rumeurs, les histoires de complot, ça tient sur des petites informations.
Des détails.
Sur des détails. Alors, Henri Paul, et ça, je pense que vous allez nous le confirmer, Henri Paul était, ça n'est pas un secret pour personne, était sans doute en relation avec les services secrets français. Pourquoi ? Parce que quand on est chef de la sécurité d'un palace, forcément, de temps en temps, eh ben on renseigne les services, que ce soit la DST à l'époque, le contre-espionnage, ou la DGSE, ça, Daniel.
Exactement, exactement.
Je veux dire, ça, c'est... Donc, du coup, de ce petit élément, si vous voulez, eh ben, Mohamed El Fayed s'est servi de ces petits éléments en disant, alors, il a travaillé, alors, c'est pas travaillé, s'il a donné des renseignements, parce que le gouvernement français a besoin de savoir si Yasser Arafat, par exemple, est au crayon.
Mais ça, c'est de bonne guerre. Tous les, ce qu'on appelle les hommes aux clés d'or, les grands concierges des grands palaces, sont les meilleurs agents de renseignement, des renseignements français ou même à l'étranger. Ça, c'est un classique. Mais de là à dire que Henri Paul serait, aurait été placé aux commandes pour être un kamikaze, en quelque sorte.
Malheureusement,
et tuer
non,
la
parce
princesse,
que
la... Il y a quand même un pas qui est
large. Malheureusement, je pense que c'est vrai que le travail de la brigade criminelle a dépeint un homme qui était surtout qui sortait d'une histoire amoureuse qui s'était mal passée. À un moment donné, la direction du Ritz a essayé de faire croire à la brigade criminelle que Henri Paul ce soir-là n'avait bu que du jus de pamplemousse. Malheureusement, les enquêteurs de la criminelle sont allés vérifier les tickets de bar du Ritz et ont découvert qu'il s'agissait de deux pastis. On a découvert aussi que Henri Paul, qui traversait un moment un peu difficile dans sa vie, avait l'habitude de boire chez lui. Il y a eu des perquisitions.
Il habitait tout près du Ritz.
Oui, qui ont été faites à son domicile et qui confirment cette thèse. Alors je comprends bien que pour beaucoup de personnes qui ont connu Henri Paul, cette maladie, puisque c'est une maladie, l'alcoolisme a été caché pendant longtemps, que ça ne correspond pas forcément au personnage qu'ils avaient vu ou cru voir devant eux, mais que malheureusement, c'est bien ça qui s'est passé.
Général Hébrard, juste en quelques mots, vous nous certifiez que tout a été fait côté français pour vraiment analyser le moindre détail, le moindre boulon même de cette Mercedes.
Tout a été analysé puisque la voiture a été démontée pièce par pièce. Par exemple, les huiles ont été analysées par un laboratoire indépendant pour vérifier qu'il n'y avait pas eu non plus de sabotage possible. Les moteurs, les boîtes de vitesse, tout ce qui était électronique. Il faut se rappeler aussi qu'en 1997, c'est une voiture qui a déjà de l'électronique embarquée.
Bien sûr.
Et que, si vous vous rappelez aussi, 1997, c'est l'apparition des premiers téléphones portables. Donc il y a eu des questions posées. Est-ce qu'on pouvait, par exemple, déclencher les airbags à distance pour faire accidenter le véhicule? Bon, tout ça a été examiné et les portes ont été fermées. Je précise aussi que la société Daimler-Benz a entièrement coopéré avec nous.
Oui.
Et donc, par exemple, pour déterminer la vitesse d'entrée du véhicule, la société Daimler-Benz a accepté d'écraser deux véhicules identiques à celui dans lequel était assise la princesse Diana, pour être sûr qu'on ait des énergies de déformation utilisables. Alors, j'explique, l'énergie de déformation, c'est ce qui va c'est ce qui nous permet de calculer la vitesse d'entrée dans le tunnel.
D'accord. Voilà. Et on voit bien que tout a été fait dans le moindre détail. C'est difficile de jeter la pierre à la brigade criminelle. On va se retrouver tout de suite après, évidemment, dans le prochain chapitre, parce que cette enquête est loin d'être terminée. Une enquête qui ne semble avoir rien laissé au hasard. Les investigations vont, contre toute attente, repartir de plus belle, mais cette fois de l'autre côté du Channel, à Londres. Janvier 2004, les autorités britanniques, sous la pression des journaux et des accusations de complot incessantes de la famille El Fayed, décident de lancer l'enquête Paget, de vastes recherches sur la mort de la princesse. L'un des hauts responsables de Scotland Yard, le commissaire John Stevens, est chargé des investigations. Celle-ci porte en priorité sur l'hypothèse d'une conspiration destinée à éliminer Diana. Pendant 3 ans, 14 policiers vont ainsi reprendre tout le dossier et entendre 300 témoins. Parmi eux, audition de 2005, longtemps restée secrète, le prince Charles en personne. Il est questionné sur une note écrite en 1995 par Lady Di, dans laquelle elle indique « Mon mari prévoit un accident dans ma voiture, une défaillance des freins et une grave blessure à la tête, pour qu'il puisse épouser la nourrice de nos enfants ». Le prince ne pourra pas expliquer la raison de cette note. Les enquêteurs ne pourront pas dire non plus pourquoi Diana était à ce point inquiète. John Stevens indiquera plus tard que Lady Di avait sans doute été rendue paranoïaque par son entourage et certains journalistes. 14 décembre 2006, le commissaire John Stevens rend les conclusions de l'enquête Paget, qui aura coûté pas moins de 5,4 millions d'euros. Le rapport compte 832 pages. Chacun de ces chapitres se termine de la même façon. Aucune allégation de complot n'a pu être prouvée par les enquêteurs. Il est écrit que tous les éléments montrent que la princesse est morte dans ce qui est présenté comme un tragique accident. L'enquête Paget estime que le prince Philippe, mari de la reine, accusé par Al-Fayed d'être le chef du complot, n'est pour rien dans cette histoire, pas plus que le MI6, les services secrets anglais. Et voilà donc que l'Angleterre, à son tour, tord le cou à la thèse du complot. Thèse difficile à établir, d'autant plus que Daniel Bourdon, ça vous le savez et vous avez pu l'établir. Il y a un authentique jeu de chaises musicales pour savoir qui va prendre le volant de la Mercedes. Jusqu'au dernier moment, on ne saura pas qui va pouvoir partir.
En fait, Dodi va prendre une grande responsabilité dans l'accident quelque part, sans le savoir. Parce qu'ils vont, il va se passer qu'il y a trop de paparazzi devant. Diana est vraiment embêtée et il décide de changer la phase. D'ailleurs, le garde du corps sera pas d'accord avec ça. Jusqu'à la fin, il sera pas d'accord, même s'il l'a jamais déclaré vraiment.
Rich Jones,
tout à fait. Et en fait, on va prendre Henri Paul qui est en train de boire effectivement de l'alcool parce qu'il pense qu'il ne va pas travailler. Et on lui dit, tu vas prendre la voiture, une autre voiture. Donc cette fameuse Mercedes, et on va partir avec Diana et Dodi Al-Fayed par l'arrière du Ritz.
Par la rue Cambon,
ouais. Voilà. Donc c'est ce qui va se passer, et c'est pour ça que tout est improvisé à partir de ce moment-là.
Donc ce qui affaiblit, si je puis dire, la thèse d'un complot qui aurait été minuté, organisé, avec effectivement des intervenants précis.
Hein. Complètement, puisque c'est Dodi Al-Fayed qui prend cette décision.
Xavier Benerozzo.
Il y a quelque chose qui n'a jamais été dit et écrit sur cette affaire, c'est qu'il y a l'affaire des dommages aux civils. Et ça, un camarade du Palais me l'a raconté récemment, c'est-à-dire que
le palais de justice
m'a dit que tout après l'accident, il y a la question des dommages aux civils qui va se poser. Alors pour qu'on comprenne bien, c'est combien risque de payer le Ritz ou Henri Paul, puisqu'Henri Paul est donc un employé
du Ritz, d'accord, les salariés,
d'accord, et le Ritz appartient à Mohamed Al-Fayed, et que là il y a une possibilité pour la famille royale de demander des sommes extravagantes au Ritz et donc à Mohamed Al-Fayed. Et ce que j'ai appris récemment, c'est qu'il y avait une procédure qui était possible pour la couronne britannique, c'est-à-dire de faire payer des sommes absolument faramineuses à Dodi Al-Fayed, et d'une certaine manière de se débarrasser de ce milliardaire égyptien qui n'en faisait qu'à sa tête, et que apparemment le prince Charles a décidé de lui-même de ne pas mener ce combat judiciaire.
Oui, le prince Charles qui a été entendu dans cette enquête. Et puis il y a quelque chose aussi d'étonnant, peut-être Daniel Bourdon il peut répondre à cette question, c'est que les services secrets britanniques ont été entendus, ce qui est rarissime.
Oui, ils ont été entendus, c'est vrai, c'est rarissime, c'est même extraordinaire, oui. Ouais. Bien sûr.
Xavier Benerozzo, c'est effectivement, on voit rarement des espions, entre guillemets, jamais, qui sont entendus dans des enquêtes de ce type.
Ah oui, puis ils ont été très clairs. Hein. Alors, ils ont dit effectivement qu'ils n'avaient strictement rien à voir avec, encore une fois, cet événement. Alors, on a même dit que la CIA et la NSA avaient, je ne sais plus, alors, des pages et des pages consacrées aux écoutes, paraît-il, sur les Didi. Mais là, encore une fois, ouais. C'est un trompe-l'œil. C'est-à-dire qu'il s'agit pour les services secrets américains ou britanniques de surveiller un peu qui voit les Didi, puisqu'elle avait des contacts, notamment notamment avec des gens au Pakistan, elle avait des contacts avec des gens du Commonwealth, mais ça n'a rien à voir avec, comment dirais-je, ce qui s'est passé sous le tunnel de l'Alma, même s'il y a des espions qui plus ou moins disent que font part de théories un petit peu.
Ça, on verra, parce qu'il y a des choses assez fumeuses, mais ouais. la rumeur n'a cessé d'appeler la rumeur dans ce dossier. En deux mots, général Hébrard, on a l'impression que trop d'enquêtes tue l'enquête, finalement. Au plus vous avez fait de vérifications, au plus les rumeurs se sont amplifiées.
Oui, enfin, sur le véhicule, il n'y a pas vraiment eu de mieux.
Non, vous avez coupé
parce
court
que,
très
si
vite.
Vous voulez, moi, j'ai été entendu dans le cadre de l'affaire Padgett, puisque les Anglais nous ont proposé, dans le cadre de la contre-enquête, d'expliquer ce que nous avons fait. Ils nous ont posé deux, trois questions, donc il n'y a jamais rien qui a été remis en cause. Ce que l'on peut préciser aussi, c'est que dans l'affaire Padgett, il y a eu quand même des gros moyens. Le conteneur dans lequel on avait mis tout le véhicule a été renvoyé en Grande-Bretagne, et ensuite, ils se sont déplacés et ils ont modélisé en laser 3D pratiquement toute la distance entre la place de la Concorde et la sortie du tunnel. Et ensuite, avec des moyens techniques très sophistiqués, ils ont pu repositionner les motards.
Avec évidemment de nouvelles technologies. Côté anglais comme côté français, deux enquêtes criminelles. À chaque fois, c'est la thèse de l'accident qui a prévalu, même si les rumeurs vont continuer d'aller bon train. Le doute est toujours là. Été 2013, la presse anglaise s'emballe. Un ancien membre des forces spéciales britanniques, les SAS, aurait affirmé auprès de son ex-épouse que son unité avait reçu pour mission de tuer Diana à Paris. Cet homme, connu sous la seule identité de soldat N, comparé alors devant un tribunal pour port d'armes prohibées, ses déclarations explosives contraignent Scotland Yard et en l'occurrence la Metropolitan Police de Londres à effectuer de nouvelles vérifications. Le soldat N est discrètement entendu dans un lieu secret. Son ex-épouse est également questionnée. Au mois de décembre, Scotland Yard conclut qu'il n'existe aucune preuve crédible pour soutenir l'idée que ces allégations aient un quelconque fondement. Le rapport précise qu'en conséquence, la Metropolitan Police est persuadée qu'il n'y a pas de raison probante pour ouvrir une enquête criminelle. Il n'y aura pas d'investigation supplémentaire sur la mort de Diana, Dodi Al-Fayed et Henri Paul. L'explication officielle reste celle d'un accident, même s'il sera impossible d'effacer tout scepticisme. Juste après la mort de Lady Di, un policier de la crime tenait ses propos prémonitoires dans le Figaro. « Vous n'empêcherez pas certains, dans 5, 10 ou 20 ans, de refaire l'enquête ». Et effectivement, ces propos, eh bien, ils ont fait date, puisque l'enquête, on l'a faite et on l'a refaite sans arrêt avec des rumeurs persistantes. Et surtout, ces rumeurs qui sont attisées, on peut le dire, par Mohamed Al-Fayed, qui a toujours pensé et qui croit aujourd'hui encore à la thèse du complot. Daniel Bourdon, ancien policier, il est venu à Paris. Vous l'avez vu, Mohamed Al-Fayed. Il est là très vite, juste après l'accident.
Oui, il va visiter son fils à la mort.
À l'IML.
À l'IML. Il va visiter et immédiatement, il va essayer de revenir sur le... parce qu'il sait que Diana est morte et il va essayer de revenir pour la voir, pour la visiter aussi. Sauf que je vais assister à une scène un peu particulière, c'est Jean-Pierre Chevènement va lui refuser.
Ministre de l'Intérieur.
Ministre de l'Intérieur va lui refuser à ce moment-là.
Ah bon ?
Oui, je pense qu'il voulait d'abord que ce soit Charles, enfin la famille qui vienne la visiter avant. En tout cas, dans le doute, j'imagine qu'il a pris toutes ses précautions et il pense que ça n'aurait peut-être pas fait plaisir à la royauté anglaise que Al-Fayed visite Diana avant les autres, en fait.
Alors c'est une espèce de camouflet que vous nous racontez là, mais effectivement, vous sentez bien que ça marche pas entre la famille royale et Al-Fayed, ça matche pas.
Je pense que nos autorités le savent, donc ils prennent pas le risque.
Ouais. Général Jacques Hébrard, vous étiez du côté des expertises les plus techniques qui soient, la Mercedes, la trace de la Fiat Uno. Est-ce que ça vous a permis d'apprendre beaucoup de choses, cette histoire Diana, en matière criminelle ?
Oui, surtout, ça nous a permis, dans la construction du nouvel institut de recherche criminelle, d'intégrer un laboratoire entièrement dédié aux véhicules. On en avait déjà un, mais là, on a pu intégrer tout ce qui était électronique embarquée, véhicule intelligent aujourd'hui. Donc voilà. Donc je pense qu'effectivement, ça nous a fait énormément progresser. Je pense que ce que l'on a vu aussi dans le cas de l'affaire Padgett à Londres nous a permis de nous ouvrir de nouvelles perspectives.
Vous pensez que tout a été fait techniquement, de la manière techniquement possible, avec les moyens de l'époque et les moyens même plus récents, pour qu'on ait des réponses aux questions que vous posiez?
Oui, sur le véhicule, franchement, je pense qu'il n'y a aucune problématique. Vous avez évoqué quelque chose tout à l'heure concernant les ceintures de sécurité. Je rajouterai qu'elles ont toutes été vérifiées. En fait, le garde du corps n'est pas mort parce qu'il n'avait pas la ceinture de sécurité. Il aurait eu la ceinture de sécurité. Il aurait eu de grandes chances qu'il soit mort. Voilà.
Donc, c'est-à-dire qu'il ne portait pas sa ceinture le...
Non, aucune personne, d'accord. Aucune des personnes à bord n'avait des ceintures de sécurité. Tout ceci a été vérifié et on peut même affirmer que c'est parce qu'il n'a pas eu la ceinture de sécurité que lui a profité complètement de l'airbag. Monsieur Paul, lui, a eu 88 cm de recul du moteur. Donc effectivement, ça explique que Monsieur Paul et Monsieur Al-Fayed ont été gravement blessés, enfin très endommagés au niveau physique. La princesse de Galles, elle est, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, en parfait état extérieur. Mais par contre, le garde du corps est effectivement abîmé. Il est surtout abîmé parce qu'il a pris l'ouverture de l'airbag, il a pris la partie de la porte. Mais c'est grâce à la ceinture de sécurité qu'il a certainement il a certainement survécu au crash.
Je comprends bien. Étonnant cette histoire de Diana, tout de même, qui est indemne avec ce visage. À l'époque, le préfet de police nous en parlait, Monsieur Massoni, nous disait qu'elle avait une simple griffure sur le visage et que ce corps était intact. Ça fait partie du mythe Diana. C'est en ça aussi que cette affaire, elle est extraordinaire.
Oui, alors moi j'ai presque envie de laisser la parole à Daniel sur ce sujet, parce que moi, j'allais dire, les gens de la brigade criminelle m'ont toujours rapporté que finalement, ce que vous disiez au début de l'émission, ce qui est assez spectaculaire, c'est que il n'y a pas de traces sur le visage de cette femme, de la princesse des cœurs. Il n'y a pas de traces comme quoi elle est vraiment touchée dans sa chair. Alors Daniel, quand vous l'avez vu, j'allais dire, dans ces derniers instants, est-ce que vous pouvez nous confirmer ces...
Alors, vers 4h, on apprend qu'elle décède. Je vais remonter dans l'ascenseur avec elle et une infirmière décédée. Ils vont improviser une chapelle ardente, on va dire, pour la visiter. Et je vais me retrouver seul avec elle, pour la sécurité immédiate, seul avec elle dans cette pièce de l'hôpital où elle semble dormir. Effectivement, ça, on revient à dire qu'elle a cette petite griffure au front et rien d'autre. Elle est belle, elle semble dormir, en fait.
Une princesse qui semble dormir. Merci beaucoup Daniel Bourdon, Xavier Benerozo et le général Jacques Hébrard d'avoir été les invités de l'heure du crime aujourd'hui. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vignot, Marie Bossard à la préparation. Boris Pirédu était à la réalisation.
L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.